Ce dimanche 21 mai, j'ai le plaisir de vous présenter les textes du Synode 2021 qui eut lieu à Sète et a conforté notre Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche sur le chemin d'une conversion écologique. Je me présente, Dominique Marielle, présidente de la cellule Église verte. Je reviendrai tout à l'heure sur son fonctionnement, mais le mieux est de vous lire les principales injonctions définies par ce texte synodal. Voici. Au cœur des graves bouleversements écologiques, nous crions à Dieu notre désarroi. Pourtant, sa création est bonne. Dieu agit et fait surgir de nouveau. Portée par cette espérance, l'Église protestante unie de France témoigne d'un monde à venir dont elle pose les signes. Elle s'engage, en appelant ses membres, l'ensemble des communautés qui la composent et la société, à un changement radical. Elle propose des actions et recommandations issues du processus synodal de Paris et Sète durant l'année 2021. L'Église protestante unie de France rappelle que l'activité humaine est responsable du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. C'est notre responsabilité commune de faire en sorte que la planète reste vivable et accueillante pour les générations futures et pour l'ensemble du vivant. Elle interpelle les responsables politiques sur les dérives que représentent la financiarisation de la vie, la surconsommation, la course technique sans contrôle. Elle appelle à un changement de modèle économique vers une vie sobre et moins prédatrice de l'environnement. Elle proteste pour plus de justice sociale et de justice climatique, plus de solidarité et d'accueil envers les premières victimes de la destruction de l'environnement, migrants, populations précaires et défavorisées. Personnes en réorientation économique forcée soutient les initiatives citoyennes et les expériences de démocratie participative en matière de justice climatique et appelle les responsables politiques à prendre en compte les analyses et mesures proposées. Elle accompagne les peurs nouvelles qui naissent de la crise écologique, proclame une confiance originelle en un Dieu qui demeure avec nous, malgré tout et malgré nous. Aux paroisses et églises locales, en cohérence avec la déclaration générale ci-dessus, le Synode national de l'Église protestante unie de France encourage et appelle les paroisses et églises locales à poursuivre un travail biblique et théologique sur le rapport de l'humain au monde avec les différents groupes paroissiaux, à veiller à la cohérence de leurs pratiques en matière de respect de la création. Toutes les dimensions de la vie ecclésiale sont concernées. Les placements financiers non carbonés et respectueux des droits de l'homme, les transports et déplacements, la gestion des bâtiments, la consommation de biens et d'énergie, la valorisation des terrains, le reboisement, les jardins partagés, etc. À renforcer leur vigilance et leur solidarité avec les personnes et populations migrantes victimes des changements climatiques et des guerres, en lien avec nos partenaires locaux, membres de la Fédération de l'entraide protestante, dont la CIMAD, et internationaux, le DEPAFAP ou le CEVA, par exemple. À accompagner les personnes fragilisées par la crise écologique dans le cadre d'un travail diaconal local. À s'engager dans la démarche Église verte et à prendre part à la vie politique locale, notamment en faisant connaître les positions de notre Église. Thank you. Le Synode national de l'Église protestante unie de France demande au Conseil national de confier une veille sur ces questions au réseau Bible et Création. À étudier la question d'un poste rémunéré pour la communication, l'animation d'actions à mener dans les différentes paroisses et églises locales et l'aide à la mise en œuvre des décisions synodales. À promouvoir et soutenir la démarche Église verte auprès des paroisses et églises locales de l'Union, des œuvres et des mouvements. À solliciter le réseau jeunesse, les commissions catéchétiques régionales et nationales, afin qu'ils travaillent à la suite du Grand Kif en lien avec les partenaires tels que les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France et en lien avec la commission jeunesse de la Fédération protestante de France à l'élaboration de propositions pédagogiques prenant en compte les dimensions bibliques et spirituelles de notre rapport à la création. À inciter à intégrer la dimension écologique dans la liturgie par des textes adaptés. À veiller à la cohérence des engagements de l'Église à l'endroit des biens dont elle dispose et des outils qu'elle utilise, biens immobiliers, placements financiers, outils numériques, moyens de transport, etc. À encourager l'Institut protestant de théologie et théovie à soutenir et poursuivre la réflexion théologique sur le sujet. Proposer une campagne nationale avec d'autres églises visant à promouvoir un changement des habitudes de consommation en encourageant la simplicité volontaire, par exemple autour de temps de l'année liturgique. À poursuivre et intensifier le débat sur cette thématique par la mise en place d'actions communes avec les partenaires internationaux de l'Église protestante unie de France à travers des instances de la CEVA, du Conseil œcuménique des Églises, la Communion mondiale des Églises réformées, la Fédération luthérienne mondiale, pour être à l'écoute des interpellations des Églises sœurs des différents continents. Mettre en place en relation avec la Fédération protestante de France un groupe interreligieux de vigilance environnementale pour mettre en commun nos actions et nos réflexions théologiques et nous accompagner mutuellement face aux défis d'aujourd'hui. Et enfin, mettre en œuvre un suivi et une évaluation régulière de la réception des décisions du Synode de Paris et 7-2021. La cellule Église verte a été créée en 2018 à la paroisse protestante de Chartres, Beauce et Perche, pour mettre en accord notre foi et les enjeux écologiques. À la suite de Laudato Si, des chrétiens de toute sensibilité, catholiques ou protestants, se sont mobilisés pour défendre une autre façon de voir la nature et les relations humaines qui y sont associées. L'urgence de ne plus exploiter la terre sans limite s'est fait sentir. Cette nature vécue non plus séparée, lointaine et domestiquée, mais proche et matrice de nos vies. Au cours des années suivantes, nous avons mis en place un éco-diagnostic pour changer de cap. Tri sélectif, verre lavable, choix d'énergie plus sobre, plan d'isolation pour le presbytère. Nous avons proposé aux paroissiens, chaque mois, un geste pour aller vers une sobriété heureuse. cette démarche se fait par paliers. D'abord Graines de Sénévé, puis Lys des Champs. Nous sommes aujourd'hui Cep de Vigne. Exemple de gestes que nous avons pratiqués. Fabriquer des gâteaux plutôt que les acheter, réduire nos déchets, économiser l'eau, l'électricité, éliminer les plastiques, réfléchir à notre consommation en rénovant, recyclant, diminuer notre empreinte numérique. Les jeunes ont monté un projet avec une offrande dédiée pour planter des arbres avec l'association Tridome. Une armoire à bouquins en libre service a été installée sur le parvis du temple. Nous avons construit un bac à fraises et planté des framboisiers dans la cour du presbytère. Le Centre de réflexion chrétienne a fait venir Martin Kopp pour nous parler des enjeux climatiques et récemment, Stéphane Lavignotte est venu nous éclairer sur les liens entre théologie et écologie. C'est dans cette perspective que nous avons demandé l'exposition « Le monde comme jardin » à l'atelier protestant. Cette exposition, annulée en 2019 à cause du Covid, sera présentée à l'hôtellerie Saint-Yves à Chartres du 25 mai au 25 juin. L'entrée est gratuite. En Eure-et-Loire, plusieurs associations nous invitent à mieux connaître la nature. Je vous en cite quelques-unes. Eure-et-Loire Nature, dont le siège est à Morancé, propose des sorties, conférences et ateliers. Elle édite un journal appelé La Gazette qui répertorie la faune et la flore en Eure-et-Loire. L'observatoire de Louville-la-Chenard est ouvert au public chaque premier dimanche du mois. Il permet d'observer des oiseaux dans un abri avec glace sans teint autour d'une mare et près d'une haie. Il y a des planches et livres pour identifier les oiseaux. En avril, en une heure et demie, j'ai vu une dizaine d'oiseaux différents. Il existe aussi l'association naturelle à Luisan. Les ateliers de jardinage sur l'île Hébert, 14 juin, après inscription auprès de la Société d'horticulture, les jardins partagés au Petit Clos, le musée de Senonches sur la forêt, l'espace des cabanes du Bois Landry, la recyclerie de Mainvilliers est ouverte tous les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h. Bien sûr, nous avons conscience que les gestes si modestes ne suffiront pas s'il n'y a pas des décisions politiques. Mais nous pouvons peser pour aider notre société à se convertir à des valeurs plus humaines, oubliées dans la course au profit et au rendement. Nous pouvons consommer moins de viande, covoiturer, échanger sur les alternatives possibles pour qu'elles puissent émerger. Nous pouvons vivre mieux en ne cherchant pas toujours plus au détriment des autres, mais en étant satisfaits de notre quotidien et en participant aux actions qui privilégient le lien, le soin et l'attention aux autres. Le monde comme jardin. L'exposition présentée à l'hôtellerie Saint-Yves a été préparée par l'atelier protestant à Paris. Elle sera visible du 25 mai après-midi au 25 juin. Une conférence débat aura lieu le samedi 10 juin à 17h par Bertrand Montuire sur le thème « La forêt en Eure-et-Loir ». Il est vice-président de l'association Arbre 28 et Environnement et pourra répondre aux questions. Un pot convivial suivra ce temps d'échange, salle Sainte-Thérèse au sous-sol de Saint-Yves. Cette expo fait le tour des questions concernant le jardin. D'abord, les liens qu'il crée lors de sa création. La responsabilité quant à son entretien. Le partage des connaissances et des outils au cours de son évolution. Les jardins partagés en sont une illustration. Les conflits autour des méga-bassines et de la gestion de l'eau nous invitent à réfléchir à une meilleure façon de gérer les ressources naturelles en tenant compte des différents partenaires concernés. En revenant sur l'histoire des jardins, on découvre beaucoup de façons de faire différentes et combien la culture intensive sous couvert de progrès a détruit des milieux entiers et appauvri la biodiversité. En creusant un peu les imaginaires portés par les jardins, on s'aperçoit des mythologies qui tendent l'agencement du jardin. Celui du Versailles est une mise en scène du pouvoir royal. Dans la Bible, celui de la Genèse est don et bénédiction. Être chassé du jardin est une malédiction et entraîne l'homme à errer et travailler à la sueur de son front. Aujourd'hui, nous sommes invités à revoir notre façon de cultiver, sans dominer ni détériorer, mais au contraire, semer, relier, partager équitablement. D'autre part, cultiver son jardin intérieur n'est-il pas de nous réconcilier avec le temps qui passe en acceptant de ne pas tout mépriser ? Nous dépendons des saisons, de la pluie, du soleil, du vent. En étant plus attentifs à la nature, nous retrouvons nos racines et la paix qu'engendre la gratitude par rapport à tout ce que la terre nous donne si on en prend soin. La patience, l'humilité et la confiance doivent retrouver leur place et nous permettre de ressentir l'unité profonde de l'homme avec la création. Pour revenir au jardin biblique, Jésus prend souvent l'exemple sur la nature pour nous enseigner. S'émerveiller du lys des champs, respecter, attendre avant de brûler l'ivraie, semer partout. Au jardin de Gethsémani, il prie pour ne pas boire la coupe de la passion, mais fait confiance au Père. C'est dans le jardin que les femmes, puis les apôtres, trouvent le tombeau vide et que Marie-Madeleine revoit Jésus vivant qu'elle prend pour le jardinier. Chez les protestants, Calvin voit dans la nature un beau théâtre de la gloire de Dieu. Au XVIe siècle, Charles de Lécluse est le plus important botaniste de la Renaissance. Ses cultures de bulbes et de tubercules vont révolutionner les jardins d'Europe du Nord. Thank you. Je vais vous parler des fonctions du jardin. D'abord nourricier, il nous apporte de quoi manger, mais aussi nous émerveiller. Les jardins ouvriers ou familiaux reviennent à la mode. Ils créent du lien entre les voisins et améliorent l'ordinaire. Ils permettent des rencontres, des échanges, des apéros qui améliorent la vie citadine. Anciennement, les jardins du monastère servaient aussi à soigner. Avant la pharmacie, l'herboristerie a rendu bien des services. Le jardin des simples survit à côté de la collégiale Saint-André et dans la ferme de Bois-Richeux. On peut énumérer les jardins publics, les jardins botaniques ou d'horticulture, les arboretums, les jardins de loisirs. Ils nous permettent d'échapper au bruit et à la pollution de la ville. Ces promenades au contact de la nature, des arbres et des champs d'oiseaux ont un effet thérapeutique reconnu au Japon. On parle de bains de forêt et des effets antidépresseurs, relaxants et apaisants. Enfin, il y a des jardins artistiques. Celui de Chaumont en est un bon exemple. En 2023, le Festival des jardins a pour thème la résilience et les artistes du monde entier sont invités à nous emmener dans leur imaginaire. Chacun interprète selon sa sensibilité et met en œuvre des techniques appropriées pour défendre son point de vue. Les jardins de Bagatelle à Paris offrent régulièrement des espaces du domaine à un sculpteur pour animer le paysage. J'ai eu la chance de voir les sculptures d'Henri Moore et les totems de Krachberg. Il y a aussi les jardins d'apparat autour des châteaux. Ceux de la Loire sont réputés. Celui de Chenonceau est célèbre grâce à Catherine de Médicis qui les a dessinés et les fleurs du jardin servent à décorer les salles du château. Chaque composition florale est un bijou. Celui de Maintenon mérite le détour. Celui des Tuileries à Paris forme un écrin entre le Louvre et la Seine et les sculptures de Bourdelle agrémentent les parterres. On peut aussi évoquer les jardins de la période romantique parsemés d'édicules, de chinoiseries ou d'autres folies. Les buttes Chaumont et le parc Monceau en sont les perles. Je termine avec les jardins de mémoire, ceux qui entourent les cimetières ou rendent hommage à un événement ou une personnalité. Il reste à mentionner les jardins conservatoires qui permettent de sauvegarder les graines de plantes en voie de disparition. L'INRA fait des recherches pour voir les incidences du réchauffement sur les plantes et anticiper l'adaptation au changement, soit par des espèces plus résistantes, soit par des plantes mieux adaptées au climat. L'histoire du jardin remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, sous Cyrus le Grand. Le jardin comprenait quatre zones qui symbolisent les éléments zoroastriens. Le ciel et le feu, la terre et l'eau. Les jardins suspendus de Babylone étaient peut-être situés à Ninive. Ces jardins perses ont influencé toute l'Antiquité et les mondes arabo-musulmans et indiens. En islam, le jardin est le reflet du paradis. Il invite à la contemplation. C'est un symbole de la générosité d'Allah. L'eau y règne dans bassins, les fontaines entourées de palais au décor grandiose où la géométrie, la symétrie et le raffinement exaltent la beauté du lieu. Dans le jardin zen au Japon, une autre philosophie s'exprime. Le temps semble suspendu. Chaque espace est une épure d'une partie du monde. Le vide et le plein s'équilibrent. Il faut s'asseoir pour communier avec le lieu. Pour conclure, je vous invite au prochain culte à 10h30 dans le temple 20 rue Saint-Thomas et vous souhaite une agréable visite de l'exposition Saint-Yves au moment qui vous convient. Notez aussi que le samedi 10 juin à 17h aura lieu une conférence débat, salle Sainte-Thérèse dans la maison Saint-Yves, 3 rue des Acacias à Chartres. Bertrand Montuire, vice-président de l'association Arbre 28 et Environnement, vous entretiendra sur la forêt et son rôle dans la biodiversité. Il sera suivi d'un moment convivial autour d'un pot. Vous serez bienvenus. Bon dimanche.